Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce d'être dans la maison du Seigneur. Vous le réalisez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont vous avez pleinement conscience? Est-ce que nous savons où nous serions si Jésus ne s'était pas mis en travers de notre chemin ce matin? Dans quel pétrin nous serions? Je voudrais que nous ouvrions le Saint-Livre, que nous lisions un texte qui s'est imposé à mon cœur lorsque j'ai appris ce qui s'était passé aux États-Unis cette semaine. Lundi matin, en ouvrant les actualités, là sur Google, j'ai vu ces 59 personnes qui ont été tuées dans un concert country. J'ai prié pour les familles, je me suis quand même... Et de suite, ce psaume s'est imposé à mon cœur. J'aimerais qu'on le lise avec beaucoup de cœur, dans le psaume 91. Vraiment qu'on le lise avec reconnaissance. C'est la parole de Dieu, la parole, elle est éternelle. Je voudrais qu'on le lise avec, mais plein de cœur. Vous savez, Dieu voit comment on lit quelque chose, vous le croyez? Ouais. Le psaume 91, verset 1er, on va le lire en entier, on va le lire solennellement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lionceau et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et toute l'Église dit Amen. Je ne sais pas si nous nous rendons bien compte. Vous avez vu comment commencent toutes les lettres que le Seigneur adresse aux Églises. Toutes les lettres commencent avec cette prière d'accompagnement que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Toute la parole nous indique, toutes les lettres, même la Bible termine avec cette parole, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Pour beaucoup de gens, la grâce, vous voyez, ça fait partie d'un vocabulaire religieux, ça fait partie de la théologie, ça fait partie des mots qu'on utilise. Mais mes frères et sœurs, c'est dommage lorsque des mots aussi merveilleux, comme le mot merveilleux qu'on a utilisé tout à l'heure dans le chant, deviennent, on a banalisé certaines paroles, certaines valeurs, et ça a énormément pénalisé l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte ce que Dieu veut? Que la grâce et la paix vous soient données. Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Et pourtant, combien de chrétiens ne peuvent absolument pas s'approprier ce psaume? Ils aimeraient aimer Dieu, ils aimeraient lui faire confiance, ils aimeraient pouvoir dire « Oui, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge ». Et pourquoi donc? Parce qu'on n'est pas là pour culpabiliser, ça ne sert à rien, à part que la culpabilité saine, celle qui vient du péché. Mais si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, est-ce que la grâce, je ne sais pas si vous vous rendez compte tout ce que ça englobe, et la paix du Seigneur vous est donnée? Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce à quoi ça correspond. Alors pourquoi tant de chrétiens sont malheureux? Pourquoi tant de chrétiens sont dans l'échec, dans la tristesse? Alors qu'un psaume comme celui-ci a été composé par quelqu'un qui connaissait Dieu. Parce que vous le savez. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église qu'on connaît Dieu. On connaît la parole, on connaît l'Église, on connaît la théologie, la doctrine. Oui, mais ceux qui connaissent Dieu, ceux qui le connaissent. Alors on rappelle des versets extraordinaires. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je suis même persuadé que beaucoup de chrétiens en sont arrivés à penser que cette invitation, elle était pour les pécheurs perdus, parce qu'eux, ils ont super besoin de paix. Vous croyez qu'il n'y a que les pécheurs qui ont besoin d'obtenir la paix? Vous ne croyez pas que certains chrétiens ont besoin de réobtenir cette grâce, cette paix et ce repos? Et je nous pose la question, est-ce que vraiment nous faisons confiance au Seigneur? Comment abordons-nous les préceptes, les ordonnances, les invitations du Seigneur? Oh, dira Esaïe, enfin, c'est Dieu qui parle. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Il y a ces soupirs. Les soupirs dans la parole de Dieu, c'est pas des soupirs comme dans la poésie française. Ce sont des soupirs qui indiquent combien on peut passer à côté de la grâce de Dieu. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur serait comme les flots de la mer. C'est écrit. C'est vrai qu'il y a un combat. Pour un peu dédouaner, c'est vrai qu'il y a des luttes. C'est vrai que le monde est dans les ténèbres. Et tout est fait dans le monde pour nous aspirer dans la défaite. Tout est fait. Tout est fait. Même les présentateurs de la météo. C'est terrible. Dès qu'ils commencent à dire « il va pleuvoir ». Il va pleuvoir sur la région de Bretagne. Mes frères et sœurs, s'ils savaient les pauvres, la bénédiction que c'est. Tous les présentateurs, on va leur payer un voyage. En Afrique, où il ne pleut pas, tous, vous allez voir comment ils vont changer d'avis. Mes frères et sœurs, la pluie, c'est une bénédiction. Vous le croyez que la pluie, c'est une bénédiction? Et tout est fait, je dis ça parce que c'est rien, mais en même temps, ça montre combien les gens sont aspirés dans une espèce de spirale. Ils sont là, ils sont noyautés par le monde, les médias, tout ce qui vient du monde est cynique, méchant, tordu, vous le savez ou non? Tout est fait, tout vient de l'ennemi. Le diable possède les médias entre ses mains, on ne s'en rend pas bien compte. Mais le monde détruit, c'est vrai que le diable il cherche à détruire notre foi. C'est écrit que le diable est appelé le destructeur, l'accusateur des frères. Si Dieu porte 150 attributs, je peux vous dire que l'ennemi l'emporte quelques-uns qui valent la peine de s'y arrêter aussi. Pour voir combien il est capable de voler cette grâce et cette paix. Nous sommes malheureux lorsque nous voyons des chrétiens qui abandonnent la foi. Nous sommes malheureux lorsque nous voyons des fils prodigues, des gens qui avaient la communion dans la maison du Père et qui se retrouvent aujourd'hui avec les cochons en train d'essayer de manger des caroubes. Vous connaissez ces histoires? C'est exactement ce qui se passe. Tout est fait dans le monde. Tout est fait pour nous décourager. Tout. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Le problème, le vrai problème de cette mentalité diabolique, c'est qu'elle est contagieuse. Et que lorsqu'elle s'infiltre dans le cœur de quelqu'un, ce quelqu'un peut devenir un instrument de l'ennemi pour décourager les autres. À tel point que dans les lois de la guerre dans l'Ancien Testament, le Dieu avait demandé que si un soldat était découragé, il reste à la maison, de peur qu'il ne décourage les autres. Et c'est une image extraordinaire de ce qui peut se passer dans une église, et nous devrions absolument être vigilants et avoir les voyants rouges qui s'allument lorsque nous voyons quelqu'un qui est décourageant. Et il y a des gens, ils ne s'en rendent même plus compte. J'en parlais la semaine dernière quand on a présenté les petits. Vous voyez, c'est ces gens qui sont super spirituels. Et ils voient une femme enceinte qui est là avec sa troisième grossesse ou quatrième grossesse. Comment tu vas faire? T'as vu dans quel monde on est? Comment ils vont faire tes petits? Je peux vous dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Et Dieu, il garde ses enfants et nos enfants. Et vous voyez, c'est des petites choses. Mais moi, j'ai vu des chrétiens vraiment qui ont ce talent pour décourager les autres, tout le temps dans la défaite. Et ça, c'est normal. Dans le monde, est-ce que c'est normal? Mais bien sûr que c'est normal. Les gens, ils sont dans les ténèbres. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes des enfants de la lumière. Et nous devrions continuellement éclairer, amener de la vie, pas que de la lumière, de la vie dans le cœur des chrétiens et être des sources de bénédiction. Alors, ce psaume 91, qui est un psaume magnifique, je voudrais que nous puissions tous sortir de ce culte en vivant cette pensée. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la volonté de Dieu. Des fois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Eh bien, la volonté de Dieu, elle est là. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, comment cela se fait-il? Et comment aider? Parce qu'en fin de compte, on est là pour aider. Moi, je suis là ce matin pour nous aider, pour vous aider. Comment vivre le psaume 91? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, hélas, s'attribuer le psaume, s'approprier ce psaume-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Ils n'ont pas compris certaines choses. Des choses super simples. Écoutez-moi bien. Quand Dieu donne des commandements, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Un commandement qui est écrit plusieurs fois dans le livre de Jacques, je pense, « Ne vous plaignez pas ». Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit dans la Bible « Ne vous plaignez pas » Je continue. « Ne vous plaignez pas ». Si l'un, et c'est Jacques qui dit, Pierre qui dit, si l'un, Paul qui dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, parce qu'il y a quand même des situations aussi, pardonnez. Mes frères et sœurs, s'approprier ce psaume est une grande faveur. Franchement, le frère ou la sœur qui vit le psaume 91 est dans la grâce de Dieu, c'est évident. Mais si nous ne commençons pas à écouter le simple, les choses simples, ne vous plaignez pas, mais laissez agir le Seigneur, dit la parole. Ne murmurez pas, parce que c'est une chose de célébrer Dieu devant tout le monde, devant le trône du Très-Haut, tout ça. Non. Moi, je vous ai écouté chanter, je me suis régalé. Mais tout à l'heure, demain matin, quand le réveil va sonner, est-ce qu'on va chanter devant le trône du Très-Haut? Le diable fera tout. Alors, je ne veux pas tout diaboliser, mais quand même, il y a un combat spirituel, il faut être honnête. Il n'y a pas que ce qui est humain, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui font partie des ténèbres. Le diable fera tout pour qu'on perde la paix, parce que quand on perd la paix, on n'est plus en bénédiction. Je le répète, nous ne sommes pas des ténèbres, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de lumière. Et nous avons cette responsabilité de commencer par le début. Écoutez bien, frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui prennent à la légère certains commandements, comme ces deux que je viens de vous citer. Vous vous rendez compte qu'ils pourraient vous faire rentrer dans le repos? Ne vous plaignez pas, ne murmurez pas. Un chrétien qui cherche la volonté de Dieu, qui chante le deuxième cantique qu'on a chanté, c'était comment déjà, où il est dire le refrain « Règne en moi ». Vous pouvez le mettre le deuxième cœur qu'on a chanté ce matin. Le refrain termine avec cette parole où il est dit que Dieu doit régner. Vous voyez? Bon, le refrain, montez, voilà. Que ton règne vienne, bon, ça c'est une chose. Jésus règne en moi. Vous l'avez chanté? Hein? Comment, soyons honnêtes, mais vraiment honnêtes, comment on peut chanter ça? Jésus règne en moi si nous commençons à vivre dans la plainte et dans les murmures. C'est impossible. C'est impossible. Un vrai chrétien, il cherche la volonté de Dieu. Il veut faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous la volonté de Dieu, ou est-ce que c'est important surtout que les autres la fassent pour que les autres soient gentils avec vous? C'est quoi qui est important pour vous? Est-ce que vraiment, quand vous dites « Seigneur, je veux faire ta volonté », ça passe par la compréhension des textes de la parole de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que nous sommes sérieux avec la parole de Dieu? Quand il est dit « Rendez grâce en toute chose », vous l'avez lu ça déjà? Vous connaissez la suite? En plus, hein, Dieu est un puits, il ne dit pas « Rendez grâce en toute chose ». Il insiste, il appuie par une parole qui indique bien que c'est la volonté de Dieu. Il dit « Rendez grâce à toute chose car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Rendez grâce en toute chose. Et l'apôtre Jean de dire, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce qu'il y a des gens qui s'autorisent en plus. Alors là, si vous êtes dans cet état d'esprit, repentez-vous. Oui, vous n'allez pas encore nous sortir tel commandement. Ça, des fois, on se l'entend, vous voyez. Vous n'allez pas me dire ce qu'il faut faire. Et surtout, ne me sortez pas ce verset. J'ai pas envie de l'entendre. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas les commandements de Dieu qui sont pénibles. Les commandements de Dieu, ce sont tous des bénédictions. Et un commandement, écoutez-moi bien, on ne peut pas le contourner. Un commandement, c'est une bénédiction. Et Dieu sait très bien comment nous pouvons nous priver de sa grâce lorsque nous prenons pas au sérieux des commandements. Ces commandements, on devrait les noter, on devrait les se réveiller avec. Moi, je vous le dis sincèrement, moi, je me réveille le matin, je me suis imposé le matin. Dès que je me lève, je suis encore endormi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je me l'impose, c'est une obsession que j'ai. Je me réveille en disant, mon âme bénit l'Éternel. Ça fait qu'après, quand je prends mon café, je dis merci Seigneur pour le café, pour le sucre, pour le micro-ondes, pour la tasse. Il n'y a pas une minute que je suis levé que j'ai dit 20 fois au Seigneur merci. Mais je crois que c'est bien, franchement. Les commandements de Dieu, ce sont des bénédictions. Et chaque désobéissance à chaque commandement, amène les gens à se priver de la grâce de Dieu. Notre frère Nicolas, tout à l'heure, nous rappelait en conclusion de la Sainte-Seine combien on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que je reçois comme vous devriez le faire en ce moment, mais vous recevez, ça vous servira à rien. Cette prédication servirait à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obéissant. Et un chrétien, ce qui le caractérise, c'est vraiment cette obéissance joyeuse de dire « Seigneur, je veux être reconnaissant. Puisque tu demandes à tous les hommes de rendre grâce en toutes choses, je veux te rendre grâce. » Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un ne rend pas grâce? Soyons honnêtes, soyons simples comme des enfants. Vous avez vu un enfant qui dit jamais merci? Qu'est-ce qu'on dit de cet enfant? Qu'il devient ingrat. Voilà, vous l'avez dit. Quelqu'un qui est ingrat, c'est désagréable, quelqu'un qui ne dit jamais merci. Quelqu'un qui est ingrat, donc qui ne rend pas grâce, ça a des répercussions. Je ne suis pas reconnaissant, donc je deviens ingrat. Déjà dans une famille, quand les gens ne se remercient pas entre eux, je trouve que ce n'est pas bien. Quelqu'un d'ingrat va devenir résigné. Non, il est toujours résigné. Quelqu'un de résigné va devenir amer, oui ou non, etc. Et on pourrait, en crescendo, présenter le déferlement d'échecs qui viennent du seul fait de ne pas avoir été reconnaissant et remerciant. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Quand on lit ce psaume, il y a des gens, je vous le dis, je le redis, ils ne pourront jamais avoir la grâce, la paix de s'attribuer ce psaume. Je dis à l'Éternel, tu es ma forteresse. On est compte ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui peut le dire dans son cœur? Est-ce que vous vous rendez compte de la faveur qui repose sur cet homme ou cette femme-là? Mais ça commence par le début. Ça commence par le commencement. Et le commencement, ça commence par ce qu'on est en train de voir. Rendez grâce en toutes choses. Alors on pourrait, voyez, on va pas regarder ce qui enclenche cet état d'esprit. Mais le murmure, vous voyez, murmurer. Il y a déjà, ils sont tout en train de râler. Vous en avez jamais vu? Moi, c'est, je vous le dis, ça, personne ne le dira, hein, mais vous le dites à personne. Moi, j'ai déjà vu des gens ici, baptisés du Saint-Esprit, qui prophétisaient comme quoi, voyez, et qui, à la sortie, étaient négatifs. Ça vous a jamais choqué, ça? Bon, moi, ça m'a perturbé. Murmure, tout le temps en train de murmurer, tout le temps en train de murmurer. Alors, on pourrait dire, mais monsieur Gros, le murmure, tu vas pas me faire un pataquet, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez avec moi. Mais vraiment, j'aimerais que vous notiez ce verset et que vous regardiez ce qui s'est passé quand le peuple n'a fait que murmurer. Nombre, chapitre 11. Hier, j'étais en train de prier et ce verset s'est imposé à mon cœur parce que quelqu'un va comprendre ce qui se passe quand on ne fait que murmurer. Regardez bien. C'est terrible. On lit la Bible, on ne fait pas attention, mais ça c'est mon devoir de vous aider. Si vous n'avez pas fait attention, franchement, ce n'est pas grave. Mais regardez ce qui se passe. Nombre chapitre 11. Parce qu'il pensait qu'il murmurait qu'aux oreilles de Moïse. Vous voyez, on se dit, bon, ce n'est pas grave, c'est l'autre, c'est le cousin, c'est le pasteur, c'est le collègue. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Nombre 11, verset 1er. Le peuple murmura aux oreilles de l'Éternel. Et cela lui déplut. D'accord? Vous y êtes? Regardez bien les conséquences. Regardez bien. Il faut vraiment réaliser. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Alors tu te dis, mais attends, c'est complètement disproportionné. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez dire, non mais ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas du côté de Dieu. Soyons honnêtes, jusqu'au bout. Ils font comme murmurer, la colère de l'Éternel s'enflamme, et tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc? Mais ça veut dire que quand on murmure, si la colère de Dieu s'enflamme, ça veut tout simplement dire que l'œuvre de Dieu, elle est bloquée. Et que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire dans notre vie. Vous comprenez? Le diable, lui, franchement, il ne va pas se gêner de nous faire forcément tomber dans des péchés grossiers. Nous, on est des fois offusqués lorsqu'on voit un péché grave. C'est sûr, il faut l'être. Mais on devrait quand même peut-être se poser la question: est-ce que certains comportements ne bloquent pas l'œuvre de Dieu? Et là, vous l'avez plusieurs fois en plus. Ça vaut la peine, quand vous relirez la Bible, de vous arrêter chaque fois que la colère de Dieu s'enflamme. Tu te dis, mais. Oui, parce qu'il y a des comportements qui empêchent la volonté de Dieu de se faire. Comprenez bien que la colère de Dieu ne s'enflamme pour rien. Mais quand la colère de Dieu s'enflamme, vous le vérifierez. Vous le verrez, maintenant que je vous l'ai dit, ça sera facile. Vous allez voir que le peuple de Dieu est bloqué dans une situation, dans le désert, et il reste là. Combien de chrétiens sont pareillement bloqués dans le désert, dans des situations qui auraient dû exister, mais qui perdurent? Parce que vous savez, c'est une chose d'être dans le désert un mois. Dieu peut nous conduire dans le désert. C'est écrit dans Amos. Osez, je la conduirai dans le désert afin de pouvoir parler à son cœur. Donc Dieu sait nous conduire dans des épreuves, etc. Le Seigneur, ça c'est le psaume 91 ne met pas à part les épreuves, dans les épreuves. Et combien de chrétiens, mais ils ne se rendent même plus compte. Ça fait un an, deux ans, 10 ans qu'ils sont désagréables. En plus, des fois, on n'ose pas le dire. Moi, j'ai dû mettre une personne en discipline. Vous savez ce qu'on m'a dit? Vous savez ce qu'ils m'ont dit, les anciens? Monsieur Gros, ça fait des années que vous auriez dû le faire. Ils avaient raison, merci. Mais le problème, Le problème, il est que nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est dangereux. Nous, bien sûr, qu'on va être choqués par l'homosexualité, par l'adultère, la pédophilie, des trucs graves. Mais mes frères et sœurs, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, c'est quelqu'un qui prend au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Si le Seigneur, dans son immense sagesse, dans son immense intelligence, nous dit « ne vous plaignez pas ». Parce que le but de Dieu, c'est vrai que le but de Dieu, c'est de sauver les perdus. Nous avons entendu un don spirituel ce matin qui donnait la pensée à quelqu'un qui peut-être vient pour une des premières fois. Dieu veut sauver ton âme. Ok. Le but du travail de l'Église, c'est de sauver des âmes. Mais le but pour l'Église, c'est que l'Église apprenne la patience. C'est écrit que l'épreuve de votre foi produira la patience. Car la patience accomplit l'œuvre de Dieu et fait de nous des serviteurs accomplis. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions la patience. Quoi de mieux pour apprendre la patience que de rendre grâce en toute chose? Cette semaine, j'ai une sciatique en ce moment. Monsieur de Dieu m'a frappé, je vous le dis, c'est pas grave. Un grand coup dans le couloir et j'ai une sciatique. Voilà. C'est pas assez fort, vous avez entendu? Vous avez entendu, je ne l'ai pas tapé assez fort. On s'expliquera dans le jardin tout à l'heure. Et donc, comme ça faisait une semaine, j'attendais, j'étais chez le docteur. Écoutez bien. Je vais chez le docteur et la doctoresse me dit, voilà, vous avez une sciatique, bon, je vous donne tel médicament. J'arrive à la maison, c'était midi, j'allais le prendre, ma femme me dit, attends, regarde les contre-indications. Alors les contre-indications, si vous avez fait un infarctus et un AVC, surtout ne prenez pas ce médicament. Bon. Et j'ai dit merci Seigneur. J'ai pensé aller voir la doctoresse pour lui dire, mais pas pour moi. Je me dis, si votre père avait fait un AVC, est-ce que vous auriez donné ce médicament? Et ma femme me dit, ça ne sert à rien, elle va te dire que pour 3-4 jours, ce n'est pas grave. Mais pourquoi, et j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, mais tu vas te contenter d'un doliprane. Mais je sais qu'avant, ça m'aurait irrité. J'ai dit, quand même. Et je suis persuadé que Dieu a peut-être permis ça. Est-ce que Dieu peut permettre des trucs pareils? En tout temps, je le bénirai. Est-ce que Dieu peut permettre des situations? Est-ce que Dieu peut permettre ça? Voyez, mes frères et sœurs, quand Dieu, bien sûr, ça ne nous empêche pas de réagir et de réagir bien, de surmonter le mal par le bien. Mais mes frères et sœurs, il est certain qu'on va avoir un gros procès avec le Seigneur si on chante « Règne en moi » et qu'on n'est pas capable de s'appliquer à commencer à dire « C'est sûr que si je murmure, qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de Dieu est bloquée dans ma vie. » C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ont 10 ans de conversion, 20 ans de conversion. On ne peut pas dire qu'ils soient tombés dans des péchés grossiers, mais ils sont tout le temps en train de râler. Et l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans leur vie. Qu'est-ce que c'est dommage? Vous ne trouvez pas que c'est dommage? On devrait être sérieux, mes frères et sœurs. Sérieux, avec les péchés grossiers, n'en parlons pas. Mais avec les commandements, moi j'appelle ça les commandements intérieurs. Ce sont des commandements, ça fait que personne ne sait. Si je mens, ça va finir par se savoir. Vous êtes d'accord avec moi? Si par exemple je vous ai dit que quelqu'un m'avait frappé, si ce n'est pas vrai, vous allez finir par le savoir. Mais si c'est vrai. Il y a des choses extérieures, elles se voient. Si je vole, ça va finir par se savoir. Mais il y a des choses qui sont à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Comme l'inquiétude. On peut la cacher, l'inquiétude. Et c'est pourtant un commandement sine qua non pour avoir la paix. Il y a 3 commandements qui sont simples pour avoir la paix. Vous les connaissez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, Paul est en prison. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, ça veut dire dans le salut. On peut ne pas se réjouir peut-être de telle et telle chose, mais c'est sûr. Mais on peut se réjouir dans le Seigneur, du salut de notre âme, du sang précieux qui a coulé au calvaire, de cet amour insondable qui nous a été rappelé par ces beaux cantiques. On ne peut pas ne pas se réjouir dans le Seigneur. C'est un commandement et on devrait, je crois, commencer nos réunions, on le fait, Les réunions, c'est facile. Mais on devrait commencer chacune de nos journées en disant, Seigneur, merci pour le salut de mon âme. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce sont des commandements. Je peux faire semblant de dire que ça va, tout ça. Mais ce sont des... Parce qu'on peut jouer la comédie et jouer la résignation. Mais mes frères et sœurs, ce psaume 91, vous avez entendu comme moi, vous vous rendez compte, ce malade qui a tiré avec une arme automatique, il faut vraiment être... On est dans un monde de fous. Et ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Et vous le savez. Mais nous, il faut que nous restions dans la lumière. Il faut que nous restions dans la bénédiction. Il faut qu'entre nous, nous soyons des sources de bénédiction. Il faut que quand j'arrive à l'église, je sois une bénédiction pour vous, et vous, vous soyez une bénédiction pour moi. Je sais bien que ça peut arriver un jour qu'on est plus mal en point que l'autre, mais quand même, d'une manière générale, il est écrit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour ». Comment je vais pouvoir faire du bien à ma femme? Combien je vais pouvoir faire du bien à mes enfants, aux gens que je côtoie? Si vraiment je suis tout le temps dans la défaite, comment je vais finir par lire le psaume 91 si franchement je ne peux pas finir par m'identifier? Car ça n'a pas été écrit pour nous faire rêver. Ces choses, elles ont été écrites pour qu'on les vive vraiment. Il faut que nous puissions vivre ces choses. Vous savez, quand il est écrit plusieurs fois dans les psaumes, ou dans Ésaïe ou ailleurs, que celui qui est intelligent comprenne ces choses. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Mais l'inverse est vrai aussi. Si de murmurer et de se plaindre va freiner l'œuvre de Dieu, il y a des textes dans la Bible où on voit que quand ils ont loué le Seigneur, quand ils ont rendu grâce à Dieu, la gloire de Dieu est apparue. Il y a un texte, je vous le laisse, ne le cherchez pas, 2 Chroniques 5, versets 13 à 14. Quand ils rendirent grâce à l'Éternel pour la construction du temple, la maison fut remplie de la gloire de l'Éternel. Ils ont rendu gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, parce que des fois on veut des super prédications, mais il faut comprendre une chose, le murmure, ça déplaît à Dieu, parce que c'est révélateur. C'est révélateur. Un enfant qui dit jamais merci, c'est révélateur. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut lire un texte très 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 sévère sur le murmure? Quoique celui-là, c'était déjà pas mal. Mais quel passage, il y a des gens qui sont forts. Monsieur Gau, c'était dans l'Ancien Testament. Alors on va lire dans Jude. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Regardez ce que Dieu dit sur le murmure. Jude, verset 14. On appelle ça la prophétie d'Enoch. Et Jude, verset 14. Regardez bien. Mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens devraient bénir Dieu pour cette affaire. Jude, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Regardez bien. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Vous avez vu les conséquences? Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ça. C'est dans le Nouveau Testament. Et c'est une prophétie. Vous l'avez lu avec moi. C'est une prophétie, ceux qui se plaignent et qui murmurent vont mal terminer, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le murmure en soi ne serait pas foncièrement mauvais, mais ça enclenche tout un comportement qui va mener jusque dans l'amertume. Il y a des gens qui sont amers, il y a des gens qui sont âgés, ils sont devenus amers, et il y a des gens qui sont âgés, ils sont pleins de douceur. Pourquoi? Ils ont vécu les mêmes épreuves. Eh bien parce que certains, à la place de râler, de se plaindre, de murmurer, eh bien ils ont dit « Seigneur, je te rends grâce pour ce que je vais apprendre ». Dans cette épreuve, c'est vrai que telle personne avec qui je travaille est désagréable. Seigneur, apprends-moi quelque chose. Apprends-moi. Mes frères et sœurs, louons le Seigneur. Parce que le louer pendant le culte, on appelle nos cultes de dimanche matin, nos cultes d'adoration. D'accord? Et on le dit souvent. Non, c'est pas telle réunion, c'est un culte d'adoration. Alors c'est quoi un culte d'adoration? C'est 2 heures où on s'applique? Ou parce qu'on est dans l'église, bien on ne peut pas faire autrement de faire de louer? Ou est-ce que le culte, c'est peut-être toute la semaine? C'est quoi le culte? Les 2 heures le dimanche? Ou toute la semaine où on s'applique à obéir au commandement du Seigneur? Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Est-ce que vous réalisez le programme du Seigneur? La vie avec Dieu, c'est une vie de repos. Empressons-nous d'entrer dans le repos. Regardez l'histoire de Gédéon, parce que je pensais, en préparant cette prédication, je pensais à tous ceux qui, dans la Bible, ont eu le privilège, lorsqu'ils ont rencontré une épreuve difficile, très difficile, d'avoir l'honneur de donner à Dieu un nom nouveau. Vous avez vu lorsque Moïse, sur la montagne, prie avec, soutenu par 2 de ses frères, et que la victoire vient, il va donner un nom au Seigneur. Vous rappelez son nom? Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. Ça veut dire qu'il a expérimenté que Dieu combattait pour lui, lorsque, eh bien, il obéissait. Et donc, dans sa souveraineté, Dieu a permis que cet homme puisse donner un nom nouveau à Dieu. C'est chouette, non? Abraham, lorsqu'il va obéir, et dans une épreuve, quelle épreuve? Va voir Dieu pourvoir d'une manière miraculeuse, et il va donner à Dieu un nom nouveau, Jéhovah Jiré. L'Éternel pourvoit. Et quand vous voyez dans la parole de Dieu, les hommes, je pense que notre frère parlait d'une voix merveilleuse, c'est, comment ils appellent, c'est le père à Samson, Manouak, qui a donné ce nom, il est merveilleux parce que l'ange l'a aidé à le trouver quand même. Mais après, Gédéon, c'était pas le meilleur, mais enfin, il faisait quelque chose. Et lorsqu'il réalise, écoutez bien, frères et sœurs, parce que c'est ça qu'on devrait peut-être réaliser avant de voir le côté théologique de l'exhortation, voir le côté merveilleux de savoir qu'on est avec le Seigneur. Est-ce que vous réalisez? Parce que vous pouvez dire, tiens, il nous sermonne par rapport à des commandements simples qui déterminent la victoire. Oui, c'est un peu ça. Mais avant tout ça, il y a la présence de Dieu dans nos vies. Il y a le fait que Dieu soit occupé de nous, même si ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on est un peu en vrac, si quelqu'un peut dire, ouais, c'est pour moi, franchement, je ne suis pas fier. D'accord, c'est bien. Mais quand même si vous n'êtes pas fier d'être dans le murmure depuis 10 ans, vous pouvez quand même être heureux d'appartenir à Jésus. Amen. Et quand Gédéon se rend compte que l'ange qui le visite n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même, ce qu'on appelle une christophanie, il réalise que c'est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais il le fait de lui-même. C'est pour ça qu'il faut quand même faire les choses de soi-même. Il dit, mais je vais offrir, il va construire un hôtel. Personne lui a demandé. Personne. Il va offrir un hôtel, il va construire un hôtel, et il va appeler cet hôtel Jéhovah Shalom. Ça veut dire l'éternelle paix. Le pays va pas bien, c'est la catastrophe, c'est vraiment la guerre. Mais lui, il a obtenu la paix. Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu de paix. Et Gédéon, tout petit qu'il est, va avoir cet immense privilège d'appeler Dieu Jéhovah Shalom. Ah, je ne sais pas si vous deviez donner un nom nouveau, parce que bon, ils ont fait leur travail quand même. Hein. Il y a 150 attributs, ça va être difficile d'en trouver un de plus. Mais quand même, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, du Seigneur Jésus ce matin? Qu'est-ce que vous lui diriez? Quel est l'attribut? Vous avez vu dans le psaume 92, le psalmiste, il a que l'embarras du choix. Tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es mon refuge. Qu'est-ce que vous diriez? Comment vous le voyez, vous, le Seigneur? Quel mot vous utilisez pour parler de Jésus? Vous n'en trouvez pas de mots? Il y en a plein sûrement, non? Ouais, c'est bien. Mes frères et sœurs, un chrétien, un vrai chrétien, c'est pas comme quelqu'un le disait tout à l'heure, un catholique, un protestant, un baptiste, un libriste, un apostolique, un pentecôtiste, un évangéliste, etc. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau parce que la parole de Dieu l'a touché. et qu'il a pris au sérieux les commandements du Seigneur. Vous avez vu cette prophétie d'Enoch, les gens qui murmurent, qui se plaignent, eh bien ils sont maudits. Voilà, je résume la prophétie. Et si vous ne bénissez pas, si vous n'amenez pas la bénédiction sur les autres, si vous ne rendez pas grâce, surtout que je vous dis, c'est renchéri par cette complémentarité, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand on a compris ces choses, Dieu peut tout utiliser pour le changer en bien. Vous avez médité de me faire du mal, a dit Joseph. Vous aviez médité de me faire du mal. Ses propres frères, tous ses frères, à part Joseph qui n'était pas là, Benjamin qui n'était pas là, tous ses frères avaient, tous. Vous avez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Est-ce que Dieu l'a fait pour Joseph? Est-ce qu'il peut le faire pour toi? Est-ce que vous le croyez? Souvent, moi, je pense à Joseph. Je l'imagine quand il n'y avait que 17 ans. Il n'était pas très vieux, hein, au niveau de la maturité. Il devait, quand il est parti, peut-être avec quelques bosses et quelques bleus, attaché à certainement les esclaves, ils n'étaient pas sur les chameaux. Hein. Ils suivaient les chameaux attachés à des cordes. S'il avait su ce jour-là, que Dieu était en train de, dans sa souveraineté, parce que Dieu est souverain. Vous avez entendu le troisième don spirituel? Tout est à Dieu. Tout. Et si Dieu veut utiliser un ennemi pour nous bénir, laissez-moi vous dire qu'il ne va pas se gêner, il va le faire. Il peut tout. Marie avait besoin d'entendre l'ange Gabriel quand il est rentré dans sa petite maison. Rien n'est impossible à Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Il a le pouvoir de tout changer. Il peut utiliser vos ennemis, vous entendez, pour vous bénir. Mais à notre tour de les bénir à nous. Seigneur, je veux te rendre grâce. C'est vrai que mon patron, c'est une tête de... Il n'est pas facile. Seigneur, bénis-le. Et qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de lui? Tu vois, Seigneur, la femme que tu m'as donnée... C'est pas bon que je parle. Hein. Tu vois, la femme que tu m'as donnée, c'est pas la meilleure. Est-ce que Dieu peut utiliser votre femme qui n'est peut-être pas celle qu'elle présentait être avant? Il n'y en a pas qui ont fait la comédie pour avoir un homme et une femme. Est-ce que Dieu, malgré ses erreurs et tout, est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous bénir? Mes frères et sœurs, quand on dit « il est tout puissant », le diable, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il n'y a que Dieu qui est tout puissant. Si le diable était tout puissant, il ne se serait pas trompé dans l'affaire de Job. Écoutez-moi, parce qu'il y a plein de chrétiens qui sont en vrac là-dessus. Il y a des gens qui pensent que le diable voit nos pensées, etc., etc. Si le diable voyait dans les pensées, laissez-moi vous dire qu'il ne se serait pas trompé dans l'affaire de Job. Mais Dieu lui voyait dans les pensées de Job. Dieu savait que cet homme ne maudirait jamais le Seigneur. Et le diable, il a dit, si, tu verras, maudis-le, tu vois là, mais qu'il est telle et telle épreuve, et tu verras, il te maudira en face. Est-ce que Job l'a maudit? Eh non. Parce qu'il n'y en a qu'un qui nous connaît parfaitement, c'est le Seigneur. Et tout le monde se trompe, le diable, nos enfants, nos maris, nos épouses, tous les amis de Job se sont trompés comme ce n'était pas possible, mais Dieu ne se trompe jamais. Si on dit, si la parole de Dieu nous demande de rendre grâce en toute chose, c'est parce que Dieu est en train, veut nous apprendre un truc. Ne dites pas, je suis choqué. Tel pasteur, il m'a déçu. Tel frère, il m'a déçu. Oh, c'est insupportable, je quitte l'église. Ah oui? Vous croyez que Dieu peut utiliser un pasteur? N'importe qui, n'importe quoi. Pour nous apprendre certaines choses. Et si nous tombons dans le piège, si nous n'acceptons pas les épreuves, toutes les épreuves, nous finirons aigris et nous risquons de finir dans la prophétie d'Enoch qui franchement fait flipper, comme on dit. Mes frères et sœurs, je pense qu'il faut honnêtement dire oui, je veux vivre le psaume 80, j'allais dire le psaume 88. Certains, vous pouvez vous l'attribuer, le psaume 88. Oui, certains d'entre vous. Ça me fait mal au cœur de vous le dire, mais certains d'entre vous, vous pouvez vous attribuer le psaume 88, c'est le seul psaume de la Bible qui termine par la défaite. On ne voit aucune solution. Vous voyez, moi, je n'ai jamais compris pourquoi Dieu avait mis le psaume 88 dans la Bible. Mais maintenant, je comprends. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la victoire. Ils sont tout le temps dans la défaite. Ils ne voient pas la solution, alors que la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il est tout puissant. Vous entendez? Il est Jéhovah Jiré. Il est Jéhovah Shalom. Il est ce Dieu. Il est notre refuge. Mes frères et sœurs, si nous commencions à louer le Seigneur, à lui rendre grâce, à ne pas murmurer, nous vivrions, écoutez bien ce que je vais vous dire, nous ferions l'expérience que Agar et Ismaël ont fait lorsqu'ils ont été contraints à fuir dans le désert. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé lorsque l'enfant a crié et Dieu a exaucé la voix de l'enfant? Comme quoi ça vaut la peine d'enseigner nos enfants à prier. C'est cet enfant qui a prié, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas entendu la voix de Agar, qui était une adulte, il a entendu la voix de l'enfant. Dieu lui parle, et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui a ouvert les yeux pour qu'elle voie le puits qui était à côté. Elle était en train de mourir de soif. Non mais ça fait, je l'ai marqué, oui, Genèse 21, 19. Ne cherchez pas, vous pourrez le lire chez vous. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Dieu lui ouvrit les yeux pour qu'elle voie le puits d'eau. Il y avait un puits à côté d'elle, elle ne le voyait pas. Alors on pourrait dire, mais elle était vraiment aveugle. Mais vous croyez que nous, quand on murmure, quand on se plaint, quand on râle, et qu'on est tout le temps en train de se fâcher, vous croyez qu'on l'a vu le puits? Et ce n'est pas un puits, c'est une source. Dieu ne se compare pas à un puits, Dieu se compare à des fleuves, à des rivières. Et on ne l'a pas vu. Alors c'est facile de critiquer Agar, parce que franchement, c'est facile. Mais mes frères et sœurs, vous croyez que les ruisseaux de Dieu sont pleins? Et nous devrions constamment, oui, ça ne me plaît pas ce que je suis en train de vivre, mes ados. Parce que quand on a 4 enfants, par exemple, et qu'ils sont presque tous du même âge, quand ils sont petits, c'est bien, ils jouent ensemble tous les 4. Quand ils arrivent à l'adolescence, ils sont adolescents ensemble tous les 4. Tous les 4. Alors, mais est-ce que c'est facile d'avoir 4 adolescents à la maison? Mais est-ce qu'on n'apprend pas des choses aussi? Mes frères et sœurs, rendez grâce en toutes choses. Rendez continuellement grâce. On va terminer avec un autre verset que je cite moins souvent, celui-là. Mais c'est dans les Colossiens. Je voudrais qu'on le lise avec cœur. Parce que mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on s'attribuera le psaume 91. Il y a quelqu'un qui veut s'attribuer le psaume 91? Il y a quelqu'un qui, dans un mois, pourra dire, eh bien, moi, ce psaume, je vais en faire une affaire personnelle. Je veux pouvoir dire, il est mon refuge, ma forteresse, il te couvrira sous ses ailes. Mais je ne sais pas s'il y a une image plus belle. Est-ce qu'il y a une image plus belle que d'un poussin sous les ailes d'une poule? Est-ce qu'il y a, pour expliquer la protection, est-ce qu'il y a une image plus belle? Ou alors est-ce que vous vous prenez pour un... Excusez-moi, mais l'image est appropriée, je la cite. Est-ce que vous vous prenez pour un petit coq qui n'a pas besoin des ailes de la poule? Parce que dans la parole, Dieu ne nous compare pas à des coqs. Dieu nous compare à des poussins ou à des agneaux, des moutons. Un mouton, ça dépendra toujours d'un berger. Il aurait pu nous comparer à un troupeau de rhinocéros, vous voyez, par exemple. Oui ou non? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que Dieu aurait pu nous comparer à un troupeau d'éléphants? Quoique certains. Mais, mis à part ça, Dieu nous compare à des poussins qui ont besoin. Parce qu'un coq, il peut dire, moi, je n'ai pas besoin de la poule. Un poussin, il a besoin de la poule. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa protection. Seigneur, même si je fais des progrès, même si je deviens de plus en plus fort, j'aurai toujours besoin de ta protection. Amen. Je veux être sous tes ailes. Le psaume 91, je vais en faire une affaire personnelle. Et ça commencera avec ce qu'on a partagé ce matin. Terminons avec cette lecture dans Colossiens au chapitre 3. Regardez, ce sont des choses qui devraient interpeller tous les frères et sœurs, tous ceux qui servent dans l'Église, tous ceux qui vont servir, parce que si vous le faites, croyez-moi que vous servirez. Si vous n'arrivez pas à servir Dieu, c'est certainement parce que vous êtes embourbés dans cette affaire. Regardez Colossiens chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. » Au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et la fin du verset 15, voyez, on va le lire en entier le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, donc ça fait partie de notre vocation, pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Remerciez Dieu pour les repas, mais peut-être remerciez aussi votre femme qui l'a préparé, ce n'est pas incompatible. Est-ce que vous remerciez votre femme pour les repas qu'elle fait ? Est-ce que vous remerciez Dieu pour... Est-ce que vous remerciez les gens qui vous servent, qui vous aident ? Souvent à la sortie, il y a des gens, il y a une dame depuis qu'elle est là. Je le dis, mais ça me fait plaisir vraiment. Chaque dimanche, je ne le faites pas pour le faire. Hein. Chaque dimanche, elle vient me voir. Elle me dit, merci monsieur Gaud pour la prédication. Et je sais que c'est vrai. Mais ça me fait... Il y a beaucoup qui le font. Mais est-ce qu'on doit, c'est vrai, être reconnaissant les uns vis-à-vis... Moi, je remercie Dieu pour l'Église. Vraiment, je remercie Dieu pour le salaire que vous me donnez. C'est une grâce ou non ? Ouais. Pour les conseils que vous me donnez, pour votre affection que vous me donnez, pour votre tendresse, etc. Moi, je merci. Du fond du cœur, merci. Et je crois que ça doit plaire à Dieu quand on dit merci. Les enfants, les ados, remerciez vos parents pour ce qu'ils font. Demandez-leur les sacrifices qu'ils font peut-être pour que vous achetez la... Pas la PlayStation, ne l'achetez pas. Mais pour acheter peut-être le manteau qu'il va vous falloir. Remerciez vos parents. Ça plaît à Dieu. Écoutez, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Mais s'il y a bien une chose qui lui plaît, c'est qu'on lui dise merci. Pas le dimanche matin. Tout le temps. Soyez reconnaissants. Merci Seigneur. Le docteur s'est trompé pour les médicaments, mais tant pis. Merci Seigneur. Oui, je le pense vraiment. Parce que qui sait si j'aurais fait cette prédication si je n'avais pas eu cette affaire, oui. On va chanter ce vieux cœur qui dit « J'ai l'assurance de ton salut ». Parce que mes frères et sœurs, si vous lisez le psaume 91, vous en déduirez que cet homme, il est plein d'assurance. Lisez le psaume 92, vous allez voir s'il n'a pas fait encore des progrès. Il va même dire « Mon œil se plaît à contempler... » Qui ? À contempler qui ? Mes ennemis. Je peux vous dire qu'il fait des progrès, le brave Asaph. Quand vous voyez le psaume 60, certains psaumes, il n'a pas fait des progrès. Mais là, je peux vous dire qu'il est dans un grand, grand progrès. Quand vous rendez grâce, vous finissez par avoir de l'assurance, parce que la Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie en Dieu ». Si vous ne rendez pas grâce, si vous murmurez, si vous râlez, je peux vous dire que vous ne vous confiez pas en Dieu. Mais c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, qu'on peut chanter ce cœur. C'est quel numéro, s'il vous plaît ? J'ai l'assurance. Avoir de l'assurance, c'est merveilleux de l'assurance. Vous avez vu dans ce monde pervers, corrompu, enténébré, est-ce que vous pouvez partir et marcher avec assurance ? Vous endormir avec assurance ? C'est merveilleux l'assurance. Paul était en prison, il disait, mais moi j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, mais moi je vais en arriver là ? J'y suis pas, j'en ai honte, mais je vais y arriver. Moi je veux arriver plus haut. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia.